premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pops ont commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Papillon 89.5 sur Radio Dio. Alors, je vais vous présenter l'émission Papillon. Pour présenter en deux mots Papillon, c'est une émission sans compromis avec l'État qui parle des prisons, des détenus et de leurs proches. On veut être le relais entre ce qui se vit en détention et l'extérieur. C'est pourquoi n'hésitez pas à nous faire part de votre vécu de prisonnier ou prisonnière ou de proche de prisonnier. Nous sommes là pour dénoncer et faire réfléchir sur l'enfermement. Pardon. Et sur toutes les conséquences qui en découlent. Bienvenue à tous et bonne écoute. Au sommaire de cette émission, nous avons une interview de 12 mai qui est un jeune gars qui a fait une intervention en maison d'arrêt à la Talaudière. Puis, il y aura une petite discussion autour de cette interview. Et pour terminer, nous aurons un petit agenda très bref. Et là, pour commencer tout de suite, nous avons les brèves. Allez, à vous la parole. D'abord, les brèves sur la mutinerie.
Alors, vite fait, bien fait. Donc, moi, je vais commencer par deux petites brèves, justement, sur des mutineries. Donc, l'ordre d'apparition, donc, c'est... Je suis en train de réfléchir. Le 7 mai. Donc, ça a chauffé à la prison d'Osny. Donc, Osny, c'est une prison qui se situe dans le Val d'Oise. Donc, c'était un jeudi matin. Un détenu, en fait, est monté sur le toit de surveillance de la promenade. Et ainsi, posé sur le toit, il a détérioré les caméras et les câbles électriques qu'il a ensuite jetés dans la cour de la prison. Selon un surveillant de prison, tous les détenus qui se trouvaient donc en promenade à ce moment-là ont pris fait et cause pour ce détenu et ont refusé de réintégrer leurs cellules. Il s'avère que plus tard, eux ont été fortement réprimés par les IRIS, qui les ont obligés à rentrer dans leurs cellules. Je pense que ça s'est passé assez calmement. Et le détenu qui était présent sur le toit de la prison a mis, a été récupéré le directeur de la prison est venu parlementer avec le détenu révolté sur les coups de midi et il a été placé en garde à vue tout de suite après. L'autre mutinerie a eu lieu le 20 juin dans la prison d'Amiens. Donc, c'est 17 détenus âgés de 25 à 30 ans qui réclamaient entre autres des réfrigérateurs dans leurs cellules ainsi que des heures de promenade supplémentaires ont refusé de revenir de leur quartier après la promenade. Les IRIS aussi sont intervenus et le tout s'est soldé par le transfert des trois détenus, donc les trois meneurs en fait, dans d'autres établissements pénitentiaires de la région. Et selon le secrétaire régional du syndicat CGT pénitentiaire, il rappelle que malgré la présence des IRIS, tout s'est bien passé et les détenus ont accepté finalement de rentrer en cellule. Voilà, c'est bref, rapide.
Voilà, donc on voit que ça bouge toujours régulièrement dans les prisons et c'est des actions collectives dont on n'entend pas trop parler. Donc une fois de plus, si vous voulez, on vous rappellera l'adresse à la fin de l'émission, mais ce qui nous intéresse, comme on le développera d'ailleurs dans l'émission, c'est que vous nous en parliez vous-même quand vous le vivez de l'intérieur, quoi. Parce que les infos des médias, souvent, c'est un peu pacifié, on dira. Voilà, et justement, en parlant d'infos des médias, Il y a eu une info, alors si vous suivez un peu les médias, vous avez dû en entendre parler, le 24 juin. Alors c'est marrant en plus parce que c'était juste pendant le No Border à Calais. Donc le No Border, c'était une semaine de manifs, d'actions et de rencontres contre les frontières et en soutien aux immigrants, aux étrangers qui se font réprimer et tout. Il y avait ça à Calais. Et cette espèce de semaine d'action, elle a été vachement réprimée par la police, apparemment. Mais bref, pendant ce temps, on entend parler dans les médias de l'expulsion des sans-papiers de la Bourse du Travail à Paris. Donc c'est des gens qui occupaient la cour de la Bourse du Travail à Paris, enfin une des cours, depuis mai 2008, je crois. Et en fait, c'était les travailleurs isolés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à cette époque, il y avait eu ce mouvement, je ne sais pas si vous vous souvenez, de sans-papiers qui se sont mis en grève collectivement et qui ont été, entre autres, soutenus par la CGT. Et il y a des sans-papiers qui étaient, eux, considérés comme travailleurs isolés, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se mettre en grève parce qu'ils étaient tout seuls, ou etc. Et eux, en fait, ils ont dit, bah, pourquoi nous, on ne nous soutient pas ? Nous, on veut qu'on demande la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers. Et de tous les sans-papiers même, je pense, ça je sais pas, sans distinction du bon travailleur et du mauvais travailleur, etc. Donc, ils ont occupé cette bourse du travail pendant donc plus d'un an. Ils étaient vraiment nombreux, il y a des chiffres qui donnent jusqu'à 1300 personnes, je pense, qui tournaient là-bas, etc. Et la CGT, entre autres, leur disait « barrez-vous, c'est notre local, donc on veut pas trop que vous restiez là ». Et le 24 juin, des gens, donc entre autres de la CGT, des boules, dont certains cagoulés, armés de barres de fer et de bombes de gazeuses lacrymogènes, quoi, et qui virent tout le monde, et ça part en live, et tout d'un coup, plein de CRS arrivent et tout. Enfin bon, c'était le gros merdier, et ils se sont fait mettre dehors. Alors, si je parlais des médias, c'est que moi, dans les médias, ce que j'ai entendu à l'époque, c'était les démentis de la CGT qui disaient... On a dit qu'il y avait eu des violences, c'est pas vrai. Les seules violences, c'est de la part des sans-papiers. Et donc, il a bien fallu que, en gros, nos militants se défendent. Donc, vu que j'ai du mal à faire confiance aux grands médias, je suis allée chercher des infos, et on est allé chercher des infos, par les gens, en fait, qui étaient, ou qui se sont déplacés sur le terrain juste après. Donc là, je vais vous relayer plusieurs de ces infos. Donc comme je vous ai dit déjà, ça a bien été précisé qu'ils étaient cagoulés avec des barres de fer et des gazeuses et tout. Il a été entendu que certaines des personnes qui ont tenté d'expulser les sans-papiers disaient des choses très délicates du genre « bande de sales noires ». Voilà. Il y a eu plusieurs dizaines d'hospitalisations, 18 apparemment, donc des gens qui ont été blessés quand même pas qu'un peu, dont un petit gamin qui a été gazé et qui a dû être hospitalisé, des trucs très sympas et reluisants comme ça. Et à savoir qu'en gros, après, ils se sont rassemblés pendant plusieurs jours devant la Bourse du Travail en disant « nous continuerons à exiger ce que nous exigeons, c'est-à-dire la régularisation de tous sans condition ». Voilà. Donc en gros, bah oui, c'est pas très reluisant. On peut trouver des infos dans plusieurs sites comme afrique.com, Afrique avec un K, ou Article 11, ou le quotidien des sans-papiers, qui est un journal, enfin un média fait par les collectifs de sans-papiers et leur soutien. Voilà, et qui relaie donc leurs propres paroles. Voilà. Et petite info, donc pareil, c'est des gens qui étaient sur place qui ont dit ça, que apparemment dans les expulseurs les plus énervés quoi de la CGT, eh ben il y avait des membres de la CGT pénitentiaire, donc c'est marrant. Faites le lien vous-même si vous le voulez. Et voilà. Les deux dernières choses que je voulais dire à ce sujet, c'est que cette occupation vraiment, elle était dérangeante aussi. Parce qu'elle débordait complètement des cadres habituels de la revendication qu'on essaye toujours de cadrer, etc. C'était une occupation vraiment originale, où il y avait plein de gens, ils s'organisaient eux-mêmes, etc. Et ils avaient une revendication large, ils refusaient les distinctions entre sans-papes. Et la dernière chose quand même, c'est pour dire que du côté des militants, on crache pas mal sur la CGT. Et en gros, donc, pour remettre les choses plus à leur place... C'est la commission administrative de la Bourse du Travail de Paris, donc il y avait la plupart des syndicats, je pense, qui étaient dedans, qui a décidé de ces choses-là. Et donc d'autres que la CGT sont à blâmer dans cette affaire. Et l'autre chose quand même qui moi m'a remis du baume au cœur, c'est que j'ai lu pas mal de témoignages et de réactions de militants CGT, des militants de base en général, qui ont dit c'est dégueulasse que ce que nos chefs ont fait faire et ont fait, et nous on n'est pas d'accord et on laissera pas passer une chose comme ça. Voilà, donc en tout cas, les mouvements de sans-papiers continuent. Et voilà.
Est-ce que tu sais s'il y a eu des poursuites pour occupation ?
Je sais pas du tout, parce qu'en fait, c'était un peu compliqué, cette histoire. C'était que la mairie avait dit... C'était la mairie qui était propriétaire des locaux, et elle avait dit, nous ne demanderons pas d'expulsion. Donc, ce qui est dit par les militants, par les sans-papiers, leur soutien, c'est, vu qu'il ne pouvait pas y avoir d'expulsion légale, ils ont fait un truc de gros bras, et ensuite, vu que ça partait en live dans tous les sens, ils ont fait appeler les CRS pour finir de nettoyer le terrain et régler la situation. Voilà.
Et ce qui est important sur ça aussi, c'est comme tu disais, c'est il y a cette parole des médias, il y a aussi cette parole qui est maîtrisée par les sans-papiers et qu'il est vraiment essentiel et important justement de consulter des médias comme le quotidien des sans-papiers, puisque là, en fait, c'est les sans-papiers qui vivent l'histoire, qui vivent ces problèmes-là et qui transmettent l'info, par un biais informatique, pas tout le monde a Internet, mais bon, c'est déjà ça, et qui transmettent l'info, quoi. Et c'est cette maîtrise-là de la parole qui est hyper importante. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la transition, si je ne me trompe pas tout de suite, avec le gros morceau de cette émission, qui est justement le Festival Parole et Musique en Liberté. Donc, on voulait revenir justement sur cet événement, qui est un événement annuel, puisque le Festival Parole et Musique, en partenariat avec le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire de la Talaudière, de la maison d'arrêt, organise chaque année, donc ça aux alentours d'avril, une action culturelle à la maison d'arrêt. Donc ça passe par l'organisation de concerts, donc c'était en avril 2009 cette année, l'organisation de concerts tant pour le quartier homme que pour le quartier femme, des ateliers d'écriture. Là c'était pour le quartier homme cette année, les femmes n'en ont pas bénéficié parce que l'administration pénitentiaire a jugé qu'elles n'étaient pas assez disposées cette année à travailler sur des textes, etc. C'était un peu trop le bordel. Et donc ces textes alimentent un ouvrage qui est publié aussi chaque année, qui regroupe les textes des détenus, des photos et des témoignages d'intervenants, etc. Ainsi qu'un joli petit mot de présentation du directeur, monsieur Scholz, hein, désolé si j'ébrèche son nom, on m'en voudra absolument pas, et qui présente ce projet. Alors, pour préciser les objectifs de cette action, ils se déclinent en trois points. Donc, ils disent que c'est faire accéder un public dit empêché à l'écriture, à la musique et à la lecture, faire circuler cette parole au-delà des murs de la prison afin de sensibiliser le grand public à cet univers, et favoriser les rencontres entre artistes et publics incarcérés ou non. Donc il y a une nouveauté par rapport aux années passées, c'est que ces ateliers d'habitude avaient pour habitude de durer sur 5 mois, de s'étaler sur 5 mois, et cette année, ces ateliers s'étalent uniquement sur 2 mois. La raison étant, dite par l'administration pénitentiaire, c'est pour obtenir de meilleurs résultats au niveau de la motivation, de l'assiduité et de la production des détenus. Par ailleurs, toujours dans cette optique de réflexion qu'ils veulent poser, l'administration pénitentiaire et Parole et Musique, ils ont organisé aussi cette année un débat sur les enjeux de l'intervention culturelle en prison, voilà, qui regroupait des intervenants, des acteurs sociaux, des agents du SPIP et des artistes. Donc, on part pour expliquer un peu et faire une critique de ces interventions culturelles, on va partir. Alors, est-ce qu'on fait un morceau musical ou d'abord une interview ? Je vois qu'il y a un petit doute.
Moi, je pensais qu'on pouvait faire peut-être une petite intervention, là, mettre un peu de musique et puis on va...
Ok.
Après, on passera
d'accord, alors
à
j'ai
l'interview.
Mangé, je suis allée un peu vite. Donc,
non, mais tout va bien. Puis
donc, alors, il y a un morceau... Et ensuite, il y a l'interview.
Exactement, voilà, ouais. Puis alors, c'est moi qui suis à la technique.
Je suis chargé de présenter le morceau, en fait. C'est un morceau de Kevin Move, en fait. Désolé pour mon truc, c'est un ricain. Il a été enregistré en live dans une défunte radio, je crois, Radio Bronca, Barcelone. Donc, le son est très bon et voilà, un petit morceau de folk.
Et puis, je vous demanderai d'être conciliant parce que c'est Olga qui est à la technique et elle n'est pas très balèze. Hein.
T'inquiète, tu vas t'en sortir.
Pardon ?
T'inquiète, tu vas t'en sortir.
Oui. Ok.
Twenty-four years. She's shed so many tears in 24 years. One man locked down longer than my life. Shackled and separated from his brothers, sisters, children, wife. A shining example to the world. Being surrounded by wrong and being right. Mumia Abu-Jamal is innocent. For his life we must fight. Another man confessed. Court systems won't address evidence of innocence, 'cause they know he's innocent. The courts might be criminal, but not powerful, they're impotent. The world needs his release. There just can't be peace until the Move 9's release, and Mumia's here with me. The voice of the voiceless, he continues to resist. Always writing, exposing injustice of this system. December 9th of 81, tried to take him out with a gun. They locked the Move 9 up, tried to kill Mumia and thought their war was won. Black Panther youth, journalist dedicated to truth, committed supporter of Move. This is a battle we cannot lose. Mumia told the truth. Those other journalists had no proof. Just told those lies about Move, but Mumia told the truth. 24 years later, nothing's changed. That's why they got him locked inside a cage. 23 hours a day, spent a quarter century that way. 'Cause he refused to be their slave. John Africa coordinated his defense. Exposed the system to all extent. From the cops to the president, this whole fucking government. Mumia, his innocence, stand for his defense. 24 years, stand for his defense. 24 years. The voice of the voiceless, he continues to resist. Always writing, exposing injustice.
Alors, vous êtes toujours à l'antenne de Radio Dio, à l'émission Papillon 89.5. Et donc, nous allons enchaîner maintenant avec l'interview de 12 mai, qu'on remercie chaleureusement d'avoir bien voulu nous consacrer un moment. On regrette un peu qu'il ne soit pas aujourd'hui ici avec nous. Ça aurait été plus sympathique. Mais voilà, c'est la vie. Donc, en route pour l'interview.
là on est avec 12 mai qui est intervenu à la Talaudière dans le cadre d'atelier d'écriture. Donc si tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui t'a contacté, pourquoi et quel était le but en fait de ces ateliers.
D'accord, donc tu l'as bien dit, c'est moi je suis 12 mai du groupe 12 mai RAF. On m'a appelé parce qu'en fait en gros donc Parole et Musique organise des ateliers en prison depuis 4 ans je crois. L'année dernière c'était Fisto, mon ancien acolyte de Feu Sauf à So Good, qui m'a appelé en me disant est-ce que tu as le goût de que je te refile le plan, parce que moi cette année je vais pas le faire. Je lui ai dit bah pourquoi pas, donc ils m'ont appelé, je leur ai dit oui.
Alors du coup est-ce que tu peux nous présenter un peu les ateliers, comment ils se sont déroulés, comment ça s'est passé, etc. La sélection par exemple des détenus.
Alors la sélection des détenus j'en ai aucune idée. A priori ils ont pas choisi par rapport aux conneries qu'ils avaient fait ou quoi, ils ont choisi par rapport à l'attitude qu'ils ont en prison. Que ce soit des gens calmes quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu à gérer quoi que ce soit comme situation difficile. Pour tout dire, le premier jour où je suis arrivé là-bas, j'ai même trouvé un gars avec qui je prenais le bus quand j'avais 15 ans. Donc c'était assez familial. Et j'avais 5 détenus je crois. Si je peux dire mon regret personnel, c'est qu'il y en avait un, en fait il y avait un détenu qui est resté qu'une fois. Parce qu'en fait c'était un Algérien d'Algérie et on avait beau être trois rebeux dans l'assistance, on n'a pas été foutu de traduire ce qu'il nous disait correctement, donc coup ça l'a découragé, il n'est pas resté. Bon après ça c'est pas, c'est de la faute à personne, ouais. J'aurais dû mieux travailler mes cours à la fac, c'est tout.
Donc le déroulement des ateliers, donc comment ça se passait au quotidien?
Alors ça se passait les jeudis et vendredis, je venais 2 heures. À ces 2 heures, il fallait bien entendu enlever les minutes que je perdais à enlever mes affaires et faire passer sous le portique et compagnie, à traverser les méandres de la Talo. Et puis donc ce qu'on faisait, c'est que moi ce qui m'a étonné, c'est que cette année, en fait, j'ai donné des ateliers en collège et ce que j'ai trouvé assez très positif, c'est que les mecs, quand je leur donnais un thème, moi j'écrivais en même temps qu'eux. Et qu'ils écrivaient 5 minutes, en 5 minutes c'était torché, même des trucs d'assez bonne qualité quoi. Et que moi j'étais même pas capable d'écrire en 5 minutes sur le thème que je leur avais moi-même donné quoi. Donc la première réaction que j'ai eue, c'est comment c'est que vous écriviez si vite? Et les gars m'ont dit bah nous on avait un peu que ça à foutre de cogiter dans notre cellule, donc quand on nous donne de quoi se lâcher, bah, on se lâche direct quoi.
Et les thèmes que tu abordais par exemple, est-ce que tu as abordé un peu le thème de l'enfermement, les choses comme ça? Alors, ou tu essayais plutôt de faire des choses qui essaient de les sortir un peu justement de ce cadre là? En fait
après une discussion avec en fait ce qui se passait, c'est Koumé Kiam, un slammer de Lyon, il venait jouer à Parole et Musique et donc il faisait aussi un concert en prison, et lui de son propre chef on va dire, il a décidé de venir à ses frais venir faire un atelier en prison, il est descendu de Lyon et on a fait un atelier ensemble. Et moi vu que j'avais jamais donné d'atelier en prison, il m'a un peu aiguillé sur lui ce qu'il leur faisait faire. Il m'a dit moi ce que je fais, c'est que j'essaye de pas leur faire de plus possible de leur faire parler d'autre chose, parce que les gars à partir du moment où même en atelier quand tu leur disais rien de spécial et que tu avais juste un petit moment de flottement, bah ça parlait tout de suite de qu'est-ce que t'as cantiné machin et un tel et qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui a ramené quoi, ouais. Donc le but c'était un peu de leur changer les idées aussi quand même. Moi je l'ai plus pris comme ça, moyen de ce qui se lâche et qui parle un peu d'autre chose que de la prison, mais c'est vrai que ça revenait souvent quoi, c'est assez logique.
Bah c'est leur quotidien aussi.
Ouais voilà. C'est un petit village quoi la prison. Ouais. C'est qui a fait quoi.
Ouais, c'est,
avec
c'est,
des clans, des trucs.
Avec ses rumeurs, c'est.
Voilà. C'est pas non plus les États-Unis avec la bande des Latinos et la bande des Blacks. Hein, mais...
bah, justement, par rapport à ça, comment tu l'as ressenti par rapport peut-être aux clichés que toi t'avais sur la prison avant d'y rentrer en fait?
Bah en fait mes clichés sur la prison j'en avais, mais il y a 2 ans avant de faire le concert avec Parole et Musique, j'étais venu jouer avec Sauf à So Good. Et comme je disais l'autre fois, je sais plus qui. La seule image que j'avais de la prison, moi, avant d'y foutre les pieds, c'était Haute Sécurité avec Stallone, ou tous ces films de merde. Donc, si tu veux, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et la première chose qui m'avait vraiment frappé, moi, c'était les conditions d'hygiène, en fait. Et, notamment la gueule, ou plutôt la pas de gueule de la cour de promenade, qui est c'est un semblant de décharge publique. Que les matons m'avaient dit qu'ils nettoyaient tous les 2 jours, et j'en crois pas une seconde. Voilà, après ce qui m'a frappé, ouais, c'est ça, et puis c'est le fait que aussi, je dois le dire, la majorité de la population carcérale sont des Arabes, et ça me fout le plomb, quoi, parce que quand on est arrivé avec Sofa Sozo, on avait dit au maton, c'est quoi la moyenne d'âge des gens qu'on va avoir, parce qu'on appréhendait tous, c'est logique. Ouais. Le mec nous avait dit entre 20 et 25 ans. Ouais. Et en réalité, je me rappelle de Fisto qui m'avait fait une réflexion que je trouvais assez marrante, c'est qu'à la fin de la journée, il m'a regardé, il m'a dit oui, la moyenne d'âge c'est rebeu, hein, c'est pas 20 ans quoi. Je me suis dit putain, le système judiciaire français, c'est pas un cliché que c'est de dire que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Quoi. Parce que je voyais très bien qu'il y avait des petits cons de 20 ans qui avaient dit les trois barrettes de shit dans leur quartier et qui se retrouvaient à la Tado, alors que le même gars qui s'appelle Jean-François et qui vit dans un quartier correct, il n'ira jamais en prison pour ça.
Ah, bien sûr.
Alors tout à l'heure tu disais que toi en 5 minutes des détenus sortaient des textes trop la classe et tout. Et justement ça contrecarre un peu l'objectif affiché par Parole et Musique et l'administration pénitentiaire du festival et des ateliers. Ils disent eux ouvrir un public dit empêché, donc dit empêché ça veut dire emprisonné, hein, à l'écriture et à la musique. Donc est-ce que tu trouves que c'est pas une formulation genre un peu prétentieuse et comme si en fait les détenus, on a l'impression qu'en fait ils sont pas très, qu'ils ont pas
on une... On les prend pour des neuneux.
Ouais voilà, enfin genre qu'ils écrivent pas alors, ou qu'ils ont pas de culture. Alors quand on sait qu'en plus la politique de l'administration de pénitentiaire c'est surtout de mettre des télés et moins de bouquins et...
Ouais. Enfin,
tu vois.
Alors du point de vue de Parole et Musique, moi j'ai pas la sensation qu'ils venaient comme Superman pour dire on va aider la veuve et l'orphelin. Après, du point de vue de l'administration pénitentiaire, je pense qu'ils sous-estiment parfois quand même le niveau des détenus, parce qu'ils se disent, ce qui est assez logique finalement, parce que c'est une prison, donc les gars, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la connerie que le gars a fait. Ils cherchent pas à savoir plus loin, ils cherchent pas à savoir ce qu'il a dans sa tête.
Autant le surveillant que la direction.
Ouais, voilà, la direction, ils ont halluciné sur la qualité de certains textes, quoi. Ils ont pris des grosses claques, ils sont venus nous le dire, ils ont fait au moins le déplacement, la directrice, de venir dans l'atelier et de dire aux élèves. Aux détenus, des formations professionnelles, aux détenus, ouais bah voilà, moi j'ai trouvé que vraiment vous écriviez bien et tout ça, donc ça a été le point positif et que j'ai eu l'impression qu'en fait voilà, les gars n'étaient pas vraiment au courant qu'au sein même d'une prison, bah voilà, c'est un incident de parcours, la prison dans le parcours de quelqu'un, donc il y a même des gars, enfin ils m'expliquaient les détenus que les gars qui se retrouvent pour alcool au volant en prison, ils sortent pas de leur cellule, quoi. Enfin, y a des chefs d'entreprise à la Talo, hein.
Ouais.
Tu veux dire qu'ils ont détourné un peu d'argent?
Ou alors qu'ils se sont fait choper avec de l'alcool au volant. Dans leur safran.
Est-ce que tu as senti que justement quand la directrice est venue, ils étaient contents parce que ça leur fait quand même une certaine reconnaissance,
ouais,
dont ils n'ont pas forcément, bon, quand t'es en prison, t'as aucune reconnaissance.
Ouais.
Ou alors le fait que ça vienne de la direction, comment ils le prenaient, ça les...
Alors ils le prenaient bien, figurez-vous, ouais. Parce que le dernier jour quand il y a eu le litige du fait qu'il y a un des détenus qui a sorti des textes, qu'on a pris la peine de passer à la censure et de changer les choses censurées, il y a un détenu qui a été squeezé du livre de Parole et Musique qui n'était pas dedans, et du coup le gars lui a directement considéré que c'était l'administration pénitentiaire qui était responsable, et il a appelé tout de suite le surveillant en disant appelez-moi la direction, moi je trouve que ce qu'il nous expliquait c'est que voilà, nous on n'était pas obligé de venir faire tes ateliers, on est venu parce qu'on t'aime bien et qu'on aimait bien les ateliers. Ils m'ont dit mais à côté il faut savoir qu'il fait 20 degrés dehors et que des moments on a fait sauter notre promenade pour venir.
Ouais.
Donc nous ce qu'on voulait c'était au moins une certaine reconnaissance des gars qui disent bah merci, vous avez été assidus. Parce qu'ils avaient pas, je crois qu'ils n'avaient pas une remise de peine avec cette. Il y a certains trucs qui font qu'ils ont des remises de peine, mais pas ça.
Ouais,
donc c'était vraiment des gars motivés quoi, qui venaient tuer 2 heures avec moi, et ça me faisait vraiment plaisir. Et du coup voilà, ils ont pris pour responsable l'administration pénitentiaire, mais il faut le dire, c'était pas de sa faute, hein, si un des détenus a été squeezé, ouais, du truc.
Et justement c'est de la faute à qui cette histoire en fait?
Bah en fait c'est en gros Parole et Musique a sorti le bouquin et le souci c'est qu'on était pris par les problèmes de temps en fait, donc j'ai pas pu aller moi valider le truc fini. Donc ce qui fait qu'il y a eu 2 soucis majeurs, c'est qu'il y a eu des prénoms qui sont cités alors qu'ils m'avaient dit expressément qu'ils voulaient pas avoir prénoms cités, les détenus. Parce que c'est une connerie de... J'avais frappé les textes sur une feuille pour les filer à l'administration pénitentiaire et à titre indicatif, j'avais mis le nom des détenus, mais c'était à titre indicatif, quoi. Et du coup, bah, c'est arrivé dans les mains de Parole et Musique comme ça, ils ont mis les... Bon, ça, moi, au final, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Eux, au final, les détenus, ils s'en foutent un peu, c'est pas la fin du monde pour eux, donc tant mieux, quoi. Mais après, là où j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est de virer les textes d'un des détenus parce que ils les jugeaient un peu plus faibles... C'est même pas qu'ils étaient plus faibles en fait, c'est que il y avait deux autres détenus qui avaient vraiment écrit des textes d'une qualité très très bien, quoi. Donc lui il avait juste des textes normaux et bien, et puis c'était un gars vachement comment dire, c'était un personnage quoi. Quand tu étais là avec lui, tu étais mort de rire quand il disait son texte, parce qu'il l'écrivait du bout de la main, et après il partait à la fenêtre parler avec les autres détenus en promenade. Donc tu vois, c'était qu'à chaque fois qu'il lisait son texte, tout le monde était mort de rire quoi. Parce qu'il avait un je m'en foutisme comme ça, un côté je m'en fous de ce que je fais mais je le fais, et puis il nous sortait des moments, des idées, on était écroulés. Et vu que ça se transparaissait pas sur sa feuille, on voyait juste un gars qui écrivait à la va-vite, et ben ils ont viré ses textes, et moi je trouve que c'est là où je tape du poing sur la table, parce que je trouve que c'est abusé en fait de dire on fait un truc pour la réinsertion et de virer les textes d'un des détenus. Donc moi quand je suis sorti, ce qui s'est passé concrètement, c'est que l'avant-dernier jour où j'y allais, non sans un pincement au cœur, il faut le dire, j'ai vu un des détenus qui me fait « ramène-moi le bouquin ». Il a dit littéralement « on n'est pas des putes, vous n'avez pas nous presser comme des citrons, vous nous faites écrire des textes, on aimerait bien voir le bouquin », ce que je trouve tout à fait logique. Ouais. Je lui ai dit « ben t'inquiète, je vais à Parole et Musique ce soir, je te le rapporte ». Seulement moi ce jour-là j'étais malade comme un chien, donc j'ai pas pris le temps de lire le bouquin, je l'ai ramené comme ça avec ma grosse banane en lui disant « tiens vas-y, lis-le ton truc », il ouvre et il me fait « ils sont où mes textes ?». Alors quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas ces textes et qu'on était comme ça. Tu vois, moi j'avais un bon contact avec ces gars-là et tant mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que si ça avait été des gars avec qui j'avais une entente moyenne et qui me prenaient pour un bouffon ou un mec qui venait les presser comme des citrons justement, eh ben ça aurait pu très bien le tourner. Ce qui me fait chier aussi, c'est que à Parole et Musique, je leur ai dit, bah alors certes, voilà, bon, moi je vous en veux pas, c'est pas grave, on va s'arranger, on est des êtres humains, on n'est pas con, quoi. Par contre, bah ce serait bien que vous alliez lui parler à lui, à ce gars-là, et lui dire, bah voilà, on t'explique tout sincèrement, tout simplement, parce que lui-même, le gars, il me disait, moi Parole et Musique, je m'en bats les couilles. Il m'a dit clairement, moi je m'en fous, moi pour moi c'est l'administration pénitentiaire qui m'a censuré. Je lui ai dit, mais non, c'est pas l'administration pénitentiaire, c'est Parole et Musique. Il me dit, mais moi je m'en fous. Il m'a dit, s'ils mettent pas mes textes parce qu'ils sont moins bien, je m'en fous. Et il était conscient et il le savait très bien qu'il faisait les choses à l'arrache par rapport aux deux autres, pour qui c'était vraiment un exutoire. Donc du coup, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que Parole et Musique ne prennent pas les choses en main en venant le voir lui à la prison, parce qu'ils avaient l'occasion de le faire, et de lui dire, bah voilà, écoute, on a viré tes textes parce qu'on les trouvait moins bien. Et le gars était vraiment OP, c'était pas un mec vénère qui allait te bondir à la gueule, quoi. Donc c'est le truc que j'ai vraiment regretté, c'est que les gars prennent pas leur truc en main et viennent me dire, voilà. Il a fallu que ce soit moi, et ce que je leur ai dit, c'est que je suis pas là pour faire le tampon entre ce que vous faites. Enfin, si vous faites des choses correctes, je m'en fous, je veux bien faire le tampon, mais si c'est pour arriver dans la cellule, dans le truc, parce qu'il me fait chier, c'est que ça a pourri l'ambiance de notre dernier atelier. Le gars, il a pas voulu écrire. C'est ça que je regrette vraiment, parce que moi, j'avais passé des bons moments avec eux, et je leur ai ramené des gâteaux, on a fêté mon anniversaire dans la prison, quoi, tu vois. Mais je me dis que la vocation de ce... Ça avait une double vocation, ce bouquin, c'était de mettre en lumière la parole des détenus, et surtout, d'avoir un projet social et de réinsertion, et c'est ça que j'ai pas compris.
Parce que tu dis que le CD il est vendu à prix libre, enfin l'album
est vendu à prix libre sur le festival.
Et va à qui l'argent?
L'argent elle va à l'association des détenus. Alors d'un point de vue extérieur, les gars de Parole et Musique moi je trouve que c'est bien ce qu'ils font de leur donner à l'association des détenus. Seulement après, une fois que j'ai demandé aux détenus eux-mêmes, ouais, l'association des détenus c'est bien, ils ont rigolé, ils m'ont dit c'est des mythos, ils font n'importe quoi, ils sont censés nous payer un pot chaque année, ils nous payent jamais un pot, je sais pas quoi.
D'accord. Et par rapport à la censure, est-ce que l'autre fois tu nous parlais de la censure de la paix pour certaines choses, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Si la censure de Parole et Musique est plus ou moins artistique et elle peut être comprise, celle de la paix, là, sincèrement, il y a eu des moments où je me disais c'est vraiment minable quoi, ce qu'ils censurent. Parce que il y a un gars qui, en fait, j'ai écrit un texte dans mon dernier album avec Raph qui est Je suis. C'est une anaphore avec les paroles Je suis en chaque début de phrase pour se définir nous et le monde qui nous entoure et comment on se voit dans le monde. Et il y a un des gars qui écrivait Je suis mangeur de mafé, de paella et de cassoulet. Et il disait Je suis black. Français et Bico. Et Bico, ils l'ont censuré, alors que je sais pas, ça se voit quand même que c'est pas un gars qui écrit ça, c'est pas un néo-nazi qui écrit ça.
Ouais, bien sûr. Et puis c'est du politiquement correct.
Enfin, il y avait des trucs, c'était vraiment minable. Enfin, je m'attendais bien à ce qu'ils censurent des trucs, mais alors des fois, la directrice du SBIP nous disait, ouais, moi je lui disais, mais honnêtement, vous le trouvez bien, c'était que ça me dit, ah ouais, c'est vraiment d'une très bonne qualité et tout, ça m'a vraiment impressionné. Ouais. Je lui disais, mais alors pourquoi ils vont le censurer? Elle me dit, mais ça, faut pas chercher, quoi. Enfin, en fait, il y a un texte, le meilleur pour moi, qui est sorti du truc qui a été censuré. Et franchement, pourquoi, je sais pas quoi. Parce que juste parce qu'à un moment, il dit, il parle d'un ministre et il dit, en gros, il dit que le ministre encule le peuple. Voilà. Et pour cette parole-là, ça a été censuré. Ouais. Donc il y a des trucs, enfin, je sais pas, c'est du politiquement correct.
Donc en fait, c'est pas trop parole en liberté, quoi.
Ouais, c'est parole en liberté surveillée.
Ouais. Et toi, en fait, quel sens tu donnes à ce projet ?
Je sais pas, moi, dans un sens, d'un point de vue personnel, ça m'a apporté beaucoup, je trouve, parce que c'est, je sais pas, ça m'a fait relativiser pas mal de choses. Et comment dire ? Je sais pas, on a beau dire ce qu'on veut, on a toujours un cliché sur la prison où on se dit, enfin, ça fait flipper la prison. Moi, j'ai vu les artistes qui venaient jouer, et moi, le premier, il y a 2 ans avec Sofa, quand on est allé jouer, on n'en menait pas large le matin. On est arrivé, t'as toutes les portes que t'ouvres, qui pèsent 15 kilos la porte. C'est impressionnant, ça, le visage patibulaire des matons qui se donnent un masque, hein, bien sûr, mais ça, c'est, ça fout pas dans une bonne ambiance, quoi. Tu te dis, on va au casse-pipe. J'ai vu les artistes qui s'y venaient, il y en avait un ou deux qui appréhendaient quand même sévèrement, quoi. Je voulais bien comprendre, quoi. Une année, apparemment, ils ont demandé à Francis Cabrel de venir chanter.
Ouais.
Et Francis Cabrel a dit, et bon, c'est son droit de penser ça, mais c'est pour moi une énorme pensée de Sarkozy, c'est de dire, bah voilà, ces gars-là, ils ont fait des conneries. Moi, je les ai pas poussés à faire des conneries. Alors pourquoi je vais leur donner un concert gratuit alors que les gens, ils payent 40 euros pour venir me voir en concert. Donc c'est un point de vue...
Laisse-le prêter, comment
ça voilà. Il y a une histoire comme quoi, paraît-il, qu'il y avait un détenu qui était fan de Johnny, comme à mon avis dans tous les pénitenciers de France.
Ah bah, ouais, je pense.
Et on avait demandé à Johnny de venir chanter, paraît-il, et que son attaché de presse a dit « Écoutez, ça, on veut bien le faire ». Alors tout le monde a sauté de joie en disant « C'est incroyable qu'il veuille bien ». Puis après, ils ont dit « Ouais, alors il y aura les caméras de France 2, France 3, TF1 ». Ouais. M6, donc il a dit ouais, bon, allez vous faire foutre, on n'est pas là pour vous faire mousser, quoi. C'est un truc c'est humain, zoo, quoi. Ouais, voilà, c'est pas un zoo, quoi. C'est... On n'est pas là pour montrer, regarder les jolis détenus, quoi.
Quelle relation t'as eu avec l'administration, si t'en as eu?
Alors, moi c'est plutôt avec le SPIP. Je sais pas, moi les gens du SPIP, ils ont été très corrects avec moi. J'ai pas grand chose à dire sur eux, quoi. J'ai même les quelques matons que j'ai croisés, le gars qui m'ouvrait la porte tous les jours, il était super gentil.
Ouais,
c'est un gars qui est affecté au truc. Après, même les détenus eux-mêmes me disaient que c'était un gars sympa et tout. Ouais. Il y a 2 ans, quand j'avais discuté avec le maton qui nous avait affecté en fait pour nous faire rentrer dans la prison et tout, lui bien entendu c'était un mec super sympa et tout, ils n'allaient pas nous mettre un...
Parce que tu dis que le CD il est vendu à prix libre, enfin
l'album
livre,
est vendu à prix libre sur le festival.
Et va à qui l'argent?
L'argent elle va à l'association des détenus. Alors d'un point de vue extérieur, les gars de Parole et Musique moi je trouve que c'est bien ce qu'ils font de leur donner au truc, à l'association.
Magma en ébullition, je suis ce volcan qui crache sans rémission, cette forêt dévastée qui réclame justice. Je suis ce gourdeau souillé par les gens qui passent, je suis la ville. Viens, trouve-moi et tu te sers. La zone industrielle qui libère ses gaz à effet de serre. Je suis ce gamin qui court et qui s'étouffe. Je suis ce clochard crevé qui lâche son dernier souffle. Je suis cette France forte et belle à l'origine, qui exclut pour une couleur de peau ou pour un baggy jean. Je suis ces politiques qui prônent un métier sage, cette population qui renie son métissage. Je suis le dealer, l'acheteur, le revendeur, le grossiste. Je suis ce type normal qui joue l'autiste. Je suis cette femme meurtrie, cet homme compris, cette gamine aux mœurs brisées qui fait ça pour un bon prix. Je suis cet instru, plagiat des Neptunes, pondu par un pauvre stéphanois. Je suis cette plume pleine d'amertume, prête à imploser. Je suis ce million de rêves que je voudrais exaucer. Je suis cette 205 rouge qui emmène une acre traînée. Je suis celui qui après le bac a traîné ses guêtres à Lyon 2, campus de Bron, puis sur les quais. Certaines questions trouvent une réponse, mais lesquelles, dis-moi? Je suis cette ambition que mon empire se crée. Je suis mon pote d'œuf qui inspire ce texte. Je suis mes disparus, bi à peine et blackos. Je suis ce toxico nerveux en pénurie de matos. Je suis le tout et le rien, le ying et le yang, le big et le bang, le flic et le gang, le clic et le bang bang. Je suis la guerre et la paix qui s'entremêlent. Je suis la vie, l'avenir qui répète ses 100 promesses.
Donc tu aurais des textes à nous lire, la version non censurée.
Ouais, alors la version non censurée est écrite de la main des détenus. Donc je vais vous lire celui que j'ai préféré. En fait, sous les conseils de Kume Kiam, je lui ai dit qu'est-ce que tu leur donnes comme thème, toi, parce que moi, vu que j'avais donné qu'en collège, j'allais pas Ouais, voilà, enfin, je peux pas leur demander la même chose.
C'est pas le même public, quoi.
C'est pas des gens qui écoutent Vita et Diams, quoi. Donc je leur ai dit, qu'est-ce que tu leur faisais? Ils disaient, bah moi, il y a un jour où, en général, je fais un atelier où je leur dis, voilà, il y a 4 thèmes. C'est « Prête-moi ta femme »,« Hamburger et Nunchaku »,« Le jour où je vais sortir » et « Je suis plus un quatrième ». Et du coup, au lieu de leur donner le choix entre les trucs, on a fait chaque thème à la suite, tous. Et alors, pour « Prête-moi ta femme », en fait, même moi, j'avoue, j'ai fait un truc qui parlait dans le délire un peu sexuel et bassement. Enfin, tu vois, ça parlait de « Prête-moi ta femme ». Et il y en a un qui m'a fait un texte que je trouve génial, alors je vais vous le lire. Alors, il dit « Un ministre parti en piste, c'est pas beau d'être un capitaliste, me dit « Prête-moi ta femme ». Ma femme lui répond « Peux-tu lever ma jupe aussi haut que sont les impôts, baisser ma culotte aussi bas que sont les salaires, sortir ta chose et la rendre dure comme la vie actuelle, la maintenir aussi forte que les prix, l'âme et la patrie aussi douce et délicate comme tu le fais en enculant le peuple. Alors ministre, cela te coûtera rien car tu es au-dessus, car c'est au-dessus de tes moyens. » Pardon.
Bravo.
Voilà, ce texte est assez magique. Je vais vous lire un des textes d'un des gars qui a été squeezé. Prête-moi ta femme, il faut le voir comme ce que je vous ai expliqué, un mec qui prend les choses à l'arrache, c'est assez marrant. Alors prête-moi ta femme, avec moi, elle a laissé tomber la cam. Tandis qu'avec toi, elle tournait toujours avec une lame, franchement je te blâme. Avec moi, elle sait se tenir calme. C'est pas pour te rendre jaloux, ne sois pas aussi furieux, sois plutôt curieux. J'ai l'art et la manière de la faire à l'envers. Si toi t'as choisi la cam, prête-moi ta femme, c'est une jolie dame. Grâce à moi, il n'y a plus de mauvaises ondes. Fini la gamelle au micro-ondes. Inch'Allah, c'est parti pour le tour du monde. la gamelle au micro-ondes, c'est quand même fameux, quoi. Alors, je suis aussi violent que Ravachol. Je suis proudhoniste, bakouniste, la propriété c'est le vol. Je suis pas un apôtre, où tu remues la boue et il se vautre. Pas un pour acheter l'autre. Je suis loin de porter la moustache de Lénine, je préfère la barbe de Kropotkine. Je suis plus proche des idéaux de Nestor Makhno, tué par les cocos. Je suis loin de croire en Che Guevara, jamais je mettrai les pieds à Cuba. Je suis prêt à faire la guerre contre les maîtres, pas moyen que je me soumette. Je suis pas de ceux qui pensent que l'avenir appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Je suis pas un héros, pas un Zorro, et pas non plus un zéro. Je suis celui qui se lève tôt, même quand il fait pas beau. Je suis pas capable de voir mon avenir. Qu'est-ce qui pourrait m'amener de pire? Je suis nihiliste, pas capitaliste, peut-être un peu trop utopiste. Je suis pas prêt d'affronter la réalité avec mon semblant de vérité. Je suis sûr que tu veux nous détruire de Paris à Marseille. Écoute au loin les jeunes qui se réveillent. Écoute au loin les jeunes qui se réveillent. Leur cœur rempli de haine. Un que je trouve bien aussi, c'est en fait c'est le concept c'était caravane, donc c'est-à-dire de chacun donne deux mots et on doit tous placer les deux mots de chacun dans le. Ça fait une somme de 10 mots quoi, on doit tous les placer dans un texte et le thème est libre. Alors c'était ici se dresse le tableau d'un cercle familial, français d'outre-mer, malgache ou sénégal. Unité insertion ne sont qu'images de cartes postales. Seul à mon poste, j'observe le vandale. Violence pour le partage de la France entre bandes rivales. Une seule journée a suffi à la crise pour faire surgir racisme et désert social. Comme la glace, mon cœur se brise, aucune société ne serait idéale. Les yeux dans les yeux, d'homme à homme, noir, rouge, bleu, quel drapeau pour Babylone. Alors dans mon slam, il y a des odeurs de couscous, de mafé, de cassoulet, de paella. Des idées, des valeurs, j'y mets mon cœur qui a 200 BPM bas. Dans mon slam, il y a de la sueur mais peu de travail. J'y mets mon âme, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est pas ma graille. Je critique pas, j'insulte parfois, mais pas les darons. Je calcule pas, c'est pas une partie d'échec. De toute façon, je sais jouer qu'aux dames. N'y cherche pas de refrain ravageur, ma tête, je l'ai laissée à Rotterdam.
Alors pour préciser, les deux derniers, ils étaient pas censurés. Et là, t'en as un qui est censuré.
Ouais, voilà. Alors, échauffouré dans la ville. C'était pareil, c'était une caravane avec plusieurs mots. Échauffouré dans la ville, les pauvres brûlent des caisses. Le respect devient futile. La justice à deux vitesses, l'uniforme transforme les débiles en robots casseurs de fesses. Trop de différences dans la vie, la liberté n'est plus qu'un produit qu'on nous vend comme des disques. Une volonté habite mon esprit, rétablir la dignité de ceux qui sont soumis. La vie est devenue écran de fumée, faisons de nos HLM de sublimes palais, atténuons les influences de l'argent, rendre aux pauvres, on ne veut plus d'indigents, tous ensemble poussons le cri comme un unique concert. Et donc ce qui a été viré, bien entendu, vous l'aurez deviné, c'est la justice à deux vitesses, l'uniforme transforme les débiles en robots casseurs de fesses.
C'était les meilleures phrases en plus.
Un que j'aime bien aussi, ça s'appelle Le jour où je vais sortir, donc c'était un des thèmes sous l'impulsion de Kumeka. Alors encore ce putain de rêve qui me réveille, moi et mon ego, c'est toujours le même, je ramasse mon sac et je retrouve ma go. Je traverse les couloirs, des portiques, un portail, et là m'attend une auto. À l'instant où je me lève, je repose mes pieds à terre, je suis dans une cellule. Et là je me dis, c'est promis à ma sortie, c'est fini de bicrave des pilules. Je retourne au plus proche de ma famille, je refais une vraie vie, peut-être derrière un micro. Fini les filles et les soirées martelées de techno. J'irai pas jusqu'à la vieillesse, mais je veux pas mourir trop tôt. En fait, un jour j'ai donné un concept, ça a pas pu être mis dans le bouquin, et c'est ça que j'aurais bien aimé qu'on illustre par une photo. En fait, j'ai tapé un délire de leur donner une suite de cartes. Donc, et ils se démerdaient avec soit la couleur, soit le carreau, enfin placer des mots comme ça qui ont rapport avec les cartes qu'ils avaient et la suite. Alors il y en avait un qui avait un 6 de pique, un 10 de trèfle, un 2 de pique, un 6 de cœur et un 8 de pique. Et alors il m'a fait un texte, et elle m'a dit repasse dans 6 jours, mais ne reviens pas avec tes 10 allumés, car j'ai deux copines qui habitent le lotissement, là 6 à je sais pas quoi. Ouais. Venir, on ira faire des courses dans les petits commerces 8 à 8. On passait son 8 de pique, c'est assez énorme.
Tu as quelque chose à rajouter? Un petit ciao.
Merci de vous être intéressé à ça, ça fait plaisir. Et puis les dédicaces, je peux pas citer leur nom, alors ils se reconnaîtront. J'espère qu'ils m'écouteront pas de leur cellule, mais j'ai des doutes pour certains. Donc big up à ceux avec qui j'ai passé ces ateliers. Rendre à César qui lui appartient. Ou plutôt, faut aussi saluer les gens quand ils font des choses correctes. Donc les gens du SPIP, moi, que j'ai rencontré, étaient très corrects. Un big up aux matons qui sont pas pourris. En gros, ceux qu'on a bien voulu me laisser voir.
Ouais, parce qu'il doit quand même y avoir une sacrée tripotée de...
Oui, donc voilà, et c'est à peu près tout.
Ok, et ben merci à toi.
Alors, on s'excuse pour ce petit problème technique qu'on a eu, mais bon, ça a été... Oui ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, c'était au moment où on disait qu'un lématon était un peu sympa et que ça a coupé à ce moment-là, du coup, c'est drôle.
Et je voulais rajouter qu'on a entendu un morceau de 12 mai, quand même, pendant l'interview. Le morceau s'intitule « Je suis ». Donc maintenant, je passe l'antenne à mes petits camarades qui vont débattre. Allez, à vous.
Voilà, en fait, nous, quand on a fait cette interview, enfin quand on l'a écoutée ensuite, ça nous a posé pas mal de questions. Donc on voulait en parler un peu, parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on interviewe des gens qui interviennent dans des tensions sur un plan un peu culturel. On a aussi discuté par ailleurs avec des gens qui interviennent sur un plan plus social, santé et tout. On avait interviewé, je ne sais pas si tu te souviens, fidèle auditeur, des gens du Génépi, des anciens du Génépi. On avait interviewé des gens qui avaient déjà fait des ateliers d'écriture et de théâtre, je crois, à la Talo.
Des concerts.
Des concerts aussi. Et donc, ouais, le songeur expérimental qui avait fait des concerts dans des prisons à Lyon. Voilà. Et en fait, toutes ces interviews, ces discussions, ça apporte beaucoup d'éléments de réflexion, en fait. Donc là, on voulait parler un peu plus généralement de qu'est-ce que c'est ce truc-là, l'intervention culturelle en prison. Et en gros, je crois que le fond de notre pensée, c'est est-ce que c'est vraiment bien et est-ce que ça améliore vraiment la vie ? Enfin, on s'en fout de dire bien ou mal, mais est-ce que ça améliore vraiment la vie des prisonniers ou... Est-ce que surtout c'est un truc qui sert à pacifier la détention, à justifier l'enfermement, la prison ? Je crois en gros que c'était ça notre question de fond. Et voilà. Donc un des premiers trucs en fait qui nous a interpellés par rapport à cette histoire, c'est que donc ce projet là d'atelier et puis de livres à partir des écritures, il s'appelle Parole en liberté.
Parole et musique en liberté.
par les musiques en liberté.
Ouais, mais d'accord. La musique, on va la laisser de côté.
Donc, ce sera parole.
Et voilà. Et nous, ben, en fait, on a trouvé ça un peu cynique. Je crois qu'on a tous partagé ce sentiment parce que ben, les gens qui, on le voit dans l'interview, quoi, les gens qui ont participé, ils sont loin d'être en liberté.
Ouais. Bah en fait, voilà, comme tu dis, nous, on a un peu bloqué sur ce titre au niveau de l'opération. Et parce que voilà, on part du principe que le prisonnier, c'est celui qui, par définition, est privé de ses droits et celui de la parole en fait partie. Et on voulait expliquer pourquoi la parole d'un détenu n'est pas libre. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la parole du détenu, elle est filtrée, contrôlée, censurée et voire normalisée. Il y a quand même des dispositifs qui... c'est à plusieurs niveaux que ça se passe. Donc le premier, par exemple, c'est au niveau de l'écriture, quand un détenu écrit. Son intimité au niveau de sa parole, elle est purement, on peut le dire, le mot violée par l'administration pénitentiaire pour les détenus et par le juge d'instruction pour les prévenus. Donc les prévenus, ce sont ceux qui sont en attente de brosser. Donc si je dis qu'elle est violée, c'est qu'en fait, ces institutions-là ont un droit de regard sur ce qui est écrit, qui vont contrôler ce qui va sortir. Ce qui fait que, même au niveau des correspondances entre un détenu et une personne à l'extérieur, et ben des deux côtés, et ben il va y avoir un certain polissage au niveau de ce qui va pouvoir être dit et écrit. Une autocensure, parce que sachant qu'on va lire ce qu'on dit, bah, c'est gênant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours le risque de la censure au niveau des écrits, et pire que ça, le risque de sanction disciplinaire si le détenu va trop loin. Au niveau aussi, donc là on vient de voir que, voilà, sur le concret, la parole n'est pas si libre, mais aussi sur des points de vue, on va dire, plus techniques et matériels. Par exemple, au niveau des correspondances, les délais où les gens se reçoivent le courrier est super long. Ça peut aller en semaine, quoi, une à deux semaines, voire plus. Ce qui fait que, est-ce qu'on peut vraiment parler de parole libre, sachant que, bah, c'est vachement frustrant parce que finalement, on ne suit plus trop le fil de la correspondance. C'est un peu un éternel recommencement. Est-ce qu'un prisonnier peut vraiment avoir une parole libre avec les conditions qu'il peut avoir en détention? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut bien réfléchir, etc., à ce qu'il veut écrire ou penser avec ses co-détenus ils peuvent être nombreux, ils peuvent faire d'autres choses à côté, c'est pas simple. Il y a aussi au niveau du matériel, le coût. Il ne faut pas l'oublier qu'en prison, tout coûte plus cher qu'à l'extérieur. Et c'est aussi pas simple à se le procurer. Et en plus, il y a des restrictions sur certaines choses. Par exemple, nous, on a trouvé sur l'ordinateur. En fait, les prisonniers, ils n'ont pas le droit à certains types de matériel. Par exemple, les clés USB, les imprimantes laser, les logiciels PAO. Il n'y a pas non plus le droit à Internet, il n'y a pas Internet en détention. Si le prisonnier veut faire des écrits, parler de choses, il est obligé de traiter que du socioculturel, donc c'est-à-dire ce qu'il fait en atelier, que pour la formation ou l'enseignement. Et il a le risque, s'il ne parle pas de ça, mais qu'il parle d'autre chose, que de perdre ses informations au moment des transferts, les fouilles ou à la libération, quoi, qu'on ne lui rende pas ses écrits. Sachant que là aussi, il y a un droit de regard sur l'ordinateur de l'administration pénitentiaire, comme pour l'écrit. C'est-à-dire que le détenu est dans l'obligation de fournir ses mots de passe et codes d'accès à l'AP. Et en plus, il y a une loi qui interdit à tout détenu de sortir des textes si c'est en vue d'une publication ou tout simplement divulguer des choses. Et pour ça, il lui faut l'autorisation de la direction régionale des services pénitentiaires. Donc si la personne va critiquer... En gros, on lui donnera pas l'autorisation. Donc, en fait, nous, il y a quelque chose que disait 12 mai qu'on trouvait intéressant, c'est quand il dit, en fait, c'est une parole en liberté surveillée. Voilà, donc on voit la pied sur ce point-là.
Ouais, en fait, on voit que, de manière générale, la liberté d'expression pour les prisonniers, ça n'existe pas. Et en gros, appeler cette initiative-là d'atelier et tout, qui est assez sympathique par ailleurs, hein, mais l'appeler parole en liberté... C'est quand même un peu mascarade, hein, si je puis me permettre. D'autant plus que c'est expliqué dans l'interview. C'est une des déceptions de 12 mai. C'est que, et donc des gens qui ont participé, c'est que les textes ils sont triés, sélectionnés, censurés. Autant pour des raisons de contenu qui choqueraient que juste parce que quelqu'un au-dessus d'eux a décidé que c'était mal écrit ou je sais pas quoi. Et, Et justement, voilà, nous, on voulait en profiter pour réfléchir sur... en fait, nous aussi, on aime bien diffuser des témoignages de prisonniers, d'anciens prisonniers et prisonnières, de proches, de détenus aussi, etc. Et on s'est demandé, en gros, c'est quoi pour nous une parole de détenu libre ? Alors moi, je mettrais un peu des guillemets à détenu libre.
Une parole libre de détenu, plutôt.
Voilà, peut-être une parole libre de détenu. Je mettrais quand même des guillemets. Mais voilà, on s'est posé cette question, quoi.
Bah, du coup, ce que nos discussions donnent, en fait, c'est que c'est une parole libre de prisonnier, ça serait une parole qui dérange, qui obligatoirement dérangerait l'administration, le ministère de la Justice. Parce qu'il n'y a pas que l'administration pénitentiaire, il y a aussi le ministère de la Justice en amont. Et cette parole qui dérange, c'est une parole qui doit être cachée, qui ne doit pas être entendue, ou lorsqu'elle est entendue, elle est très souvent déformée ou dépossédée, en fait, dépossédée de sa nature et de sa fonction, en fait, et souvent par les médias, quoi, ou par les communiqués de l'administration pénitentiaire, par exemple. Ce qu'on s'est dit, c'est une parole libre, c'est aussi une parole qui parle des conditions de détention, qui pose une réflexion sur l'enfermement, puisque une parole qui ne posera pas ses réflexions, elle sera forcément libre, en fait. Elle ne devra pas faire à la censure, quoi. Tout le monde pourra se raconter sa vie en prison. À partir du moment où il n'y a pas de critique, il n'y aura pas de problème. On avait interviewé il y a quelque temps de ça une personne ici dans les locaux qui expliquait que le proche qui était à la Talaudière, justement, il avait créé un truc un peu genre sur le directeur de la prison, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et il avait quand même fait quelque temps en mitard, quoi. Donc voilà, donc en ce sens-là, c'est une parole qui dénonce, quoi. Et qui dénonce aussi le vécu donc qu'on a à l'intérieur et aussi les rapports à l'institution, justement, c'est bien ça. Et en ce sens-là, elle va être censurée. Mais c'est aussi celle qui dénonce pour alerter l'extérieur, pas seulement le proche, c'est celle qui veut être rendue publique, quoi. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait plusieurs paramètres qui faisaient qu'une parole était libre à partir du moment où elle émane aussi... c'est celle qui émane, comme tout à l'heure on disait pour les sans-papiers, des principaux concernés, donc qui la maîtrisent depuis sa réflexion et sa rédaction, et qu'elle ne doit pas être instrumentalisée, en fait, par des intermédiaires, quoi. Donc là, par exemple, dans le cadre de Paroles et Musique, on a vu plusieurs intermédiaires. Il y a le cadrage par l'atelier, ensuite par la fonction même d'un atelier, donc il y a une consigne à respecter comme à l'école, quoi, en fait. Ensuite, il y a la censure par la paix, et là, après la paix, il y a encore la censure par Paroles et Musique. Donc il y a la censure un peu, on ne peut pas parler vraiment de censure, mais le cadrage éducatif, la censure de l'administration pénitentiaire pour des fonctions justement d'édulcorer la chose. Et après, il y a la censure artistique, en fait, culturelle, etc. Donc là, on a repris quand même trois intermédiaires qui censurent cette parole dans ce cadre de ces ateliers. Ce qu'on disait aussi, on s'était posé la question si, justement... Ça, on en reparlera après dans l'insertion, mais c'est quatre personnes qui font ces ateliers et on a l'impression que c'est toute la prison qui font ces ateliers, enfin, qui font ces textes, quoi. Et du coup, ça fait une espèce de représentativité illégitime. Pardon. Ensuite, aussi, c'est sur la manière de la diffuser, cette parole. Voilà, c'est sur la manière dont les détenus souhaitent la diffuser. Est-ce que c'est par le biais de lettres, de banderoles, par exemple, dans le cas de mutinerie, etc. Mais donc, il n'y a pas aussi ce cadrage du livre qui est fait à la fin, etc. Voilà, c'est sur la manière. Et ensuite, quand est-ce qu'ils souhaitent aussi réfléchir à ça et la diffuser ? C'est-à-dire, là, il y a le cadrage des ateliers. Et donc, l'atelier, c'est un moment donné qui est imposé au détenu dans un certain planning qui est bien défini pour lui, quoi. Donc, il y a encore tout ce cheminement-là. Ce cheminement, de ce cadrage, en fait, à partir du moment où il n'est pas maîtrisé par le détenu, ça n'en fait pas forcément une parole libre. Donc du coup, pour l'émission Papillon, on réfléchit souvent à diffuser la parole des détenus. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est ne pas parler à leur place, donc à la place des détenus, et faire sortir cette parole voilà, par les biais qui sont possibles, et mettre en avant ce qui... Et voilà, et nous, on se dit qu'on fait aussi une sélection dans les textes, en fait, si on en reçoit. Et on aimerait bien recevoir quand même beaucoup plus, hein. Ce qu'on se dit, c'est que voilà, on veut mettre en avant aussi les lettres qui participent justement au projet de l'émission, c'est-à-dire mettre en avant une critique de l'enfermement et participer avec notre petite pierre et mettre notre petite pierre à l'édifice pour détruire justement, enfin on va pas détruire l'enfermement, on le sait, mais une petite pierre à cet édifice-là quand même.
Et voilà, grain de sable dans le rouage.
Comment ?
Un grain de sable dans le rouage.
Voilà, un petit grain de sable dans le rouage. Donc,
mais pourquoi
c'est hyper
pas détruire l'enfermement, hein ?
Hein ?
Pourquoi pas détruire l'enfermement, petit bout par petit bout ?
Oui, petit bout par petit bout. Mais donc voilà, c'est modeste. Vraiment hyper important que les détenus écrivent vraiment pour dire ce qui se passe. Et puis ça casse l'isolement que provoque justement l'enfermement de cette parole. Donc, voilà. Et ce qui nous pousse à dire qu'en fait, du coup, cette parole libre, que nous, on appellerait libre, et qui n'est pas celle qui est dans celle qui émane de ces ateliers, en fait, elle prend des biais qui sont plutôt clandestins ou qui s'inscrivent dans des rapports de confrontation, quoi. Donc, cette parole, elle sortira soit par des circuits un peu officieux, donc par le biais de lettres ou parloir, de communiquer... d'échanges directs avec les proches, etc., ou dans des biais un peu plus fracassants, genre avec des mutineries, des évasions et des prises d'otages. Et on voit, par exemple, là, je prendrai juste un exemple, vite fait, avant de passer à mon autre exemple, on parle d'évasion, là, par exemple, l'évasion de Christophe Kider a aussi été un moyen pour sa famille de s'exprimer justement sur ce que c'est les longues peines. Donc voilà, on voit bien... que la parole, elle passe vraiment dans des rapports hyper... une parole libre passe dans des rapports forcément conflictuels. Et du coup, donc, cette parole libre, on a deux autres exemples pour bien illustrer ces rapports conflictuels. C'est par exemple comment Jean-Marc Rouillant a sorti les textes de son livre qui s'appelle « Chronique carcérale », et il le dit en introduction, en préface, c'est grâce à toutes les personnes, tous les proches, tous les amis... qui ont aidé à faire sortir ces textes au parloir, quoi. Et on a un autre exemple, alors, qui ne veut pas contribuer au spectacle et aux détenus grosse masse qui fait flipper, mais justement, sur cette maîtrise de la parole, on a un exemple qui est pas mal, puisqu'en 2001, il y a eu une vidéo clandestine qui a été faite à la centrale d'Arles, dans le sud de la France, et qui a été diffusée sur France 3 à une heure genre de prime time et tout... voilà. Et en fait, donc à l'image, on pouvait voir genre trois prisonniers cagoulés dans une cellule complètement maquillée par des draps pour qu'elle soit méconnaissable, et chacun lisant une partie d'un communiqué plein de revendications, etc. Et donc, s'ils portaient des cagoules, c'était pas pour faire peur, c'était justement par ce risque de répression importante sur le fait de diffuser cette parole libre. Par ailleurs, ils demandaient dans cette vidéo aux associations et aux citoyens qui étaient soucieux de la défense des droits de l'homme de veiller. Sur la centrale d'Arles dans les jours et les semaines qui suivaient justement cette intervention, cette prise de parole. Et ils expliquaient aussi, pour vraiment que tout soit clair et que le matériel avait été volé à l'atelier, ils disaient bien attention, la personne qui gère le détenu qui gère l'atelier vidéo, il n'est pas du tout au courant de ça, il ne faut absolument pas qu'il y ait de représailles contre lui, il n'est pas au courant, il n'est pas impliqué. Et du coup, on a noté une phrase qui était assez représentative, une phrase qu'ils énonçaient, qui était assez représentative justement de ce que c'est une parole libre en prison. Donc ils disaient, bien évidemment, si le monde carcéral n'était pas ce lieu de non-droit où le droit d'expression, d'association était interdit aux détenus, nous n'aurions pas été obligés de mener pareille action. C'est la nature antidémocratique de la prison qui nous amène à agir de la sorte. Donc on voit comment une parole libre... passe et qu'elle ne passe pas par ce genre d'atelier et que c'est vraiment un leurre pour le grand public. Et voilà.
Et voilà, et par ailleurs, il y avait aussi un truc qui nous a frappé, c'est cette question de la réinsertion. En fait, maintenant, quand on parle de prison, si on va en parler un peu sous un jour positif, on parle surtout de la réinsertion, de son rôle, de réinsérer les gens et tout. Et il y a plein d'activités, que ce soit le travail ou les ateliers ou la formation, l'enseignement, qui sont placés sous le sigle de la réinsertion. C'est un peu un mot qu'on nous sort à toutes les sauces. Voilà. Déjà, nous, on s'est dit, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, réinsertion?
Ouais. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, même 12 mai, quand il parle de ses interventions, il parle de projets de réinsertion, quoi. Donc, avant de parler de réinsertion, ce qu'il faut déjà définir, c'est quand on parle de réinsertion, c'est qu'on parle aussi d'insertion tout court. Donc, en fait, nous, en définissant un peu ce mot, on voulait un peu montrer les logiques qu'il y a derrière et qu'est-ce que ces ateliers impliquent dans ces logiques, quoi. Donc, en gros, l'insertion, c'est un peu le concept que depuis son plus jeune âge, en fait, on va s'insérer dans la société. Donc, c'est un peu le pacte social, l'espèce de contrat, comme aurait dit Rousseau. Et en fait, tout le long, il va falloir rentrer dans des choses bien normées, etc., et bien cadrées. Et le problème, c'est que si l'insertion, elle est déviante, donc hors norme, eh ben, la personne, il y a un risque de mise à l'écart et un risque de traitement par différents dispositifs. Et on va dire que la prison, c'est un peu le plus gros et le final, quoi. Donc, en fait, nous, on trouve important de préciser que quand on parle de réinsertion, c'est en fait l'idée de remettre un peu dans les rails de la vie qu'on peut qualifier dite normale ou normée, les gens qui sont sortis ou ceux qui ne sont jamais rentrés, en fait. Donc, nous, là, au niveau de... On a pris l'interview de 12 mai, on a essayé de voir un peu les logiques qui s'est dégagées, quoi. Et pour nous, quand c'est ce genre d'atelier, on a vu que ça pouvait permettre à la personne qui participe à ces ateliers de en fait se sentir un peu mieux dans sa peau quand il sortait de la prison, que en fait avoir vécu un peu mieux c'est ce passage qui peut être assez fracassant, avec l'idée de que finalement on s'intègre pas bien, enfin on se réintègre pas bien si on n'est pas bien soi-même dans sa peau, quoi. On s'est dit aussi qu'il y avait peut-être un but de que les gens finalement, ils apprennent à voir que même dans des conditions pas terribles, donc ici la détention, eh ben, il peut y avoir des petits moments sympas dans lesquels on peut s'épanouir, dans lesquels on peut s'amuser, etc. Et en fait, un peu avec cette idée que bah, dehors, il faudra apprendre à supporter la vie et ses contraintes, et qu'elles pourront être plus ou moins oppressantes, et que, eh ben, il faudra se contenter de certains petits bonheurs, quoi. Donc souvent, ça peut être les loisirs, la consommation, des choses comme ça. On a vu aussi surtout l'idée forte d'apprendre à s'exprimer et canaliser tout ce qui peut être de l'ordre des soucis, des frustrations ou les envies. Enfin bref, tout ce qui est au niveau de l'extériorisation par une voix non dérangeante et déviante. Donc ici, c'est par l'art dans l'interview, mais ça peut être aussi le sport ou le travail, quoi. C'est en gros, on canalise bien tout ce qu'on a en soi. Et enfin, pour nous, ce genre d'atelier, c'est montrer que... administration pénitentiaire et ses services annexes, SPIP, etc., que le prisonnier est motivé et qu'il fait des efforts parce qu'il montre qu'il a envie et qu'il est dans ce projet de réinsertion. Et la preuve, c'est que là, comme il est dans l'interview, c'est que c'est pris sur son temps de promenade. Donc quand même, c'est que la personne a envie, quoi. Seulement pour nous, en fait, excusez-nous, il fait super chaud là-dedans, c'est un four.
De faire encore plus chaud à la Talo.
Ah ouais, c'est horrible. Donc, nous, en fait, ce qu'on voulait démontrer par rapport à l'exemple de l'intervention qu'a l'atelier qui a pu faire 12 mai, c'est que ce concept de réinsertion, c'est une tromperie, parce que, comme il est dans l'entretien, il n'y a que 4 personnes, donc ça montre un peu la faiblesse du dispositif. Et comme disait Sophie, ça montre aussi l'espèce de manipulation du lecteur qui lira le livre de paroles et musique, parce que finalement, il aura une fausse représentation, il croira que c'est plein de détenus, alors qu'en fait, ils ne sont que 4. Comme on remarquait aussi, c'était important de signaler qu'ils ont été triés, ces détenus, donc il y a une présélection, et que même au sein de cette sélection, eh ben, il y a encore une sélection qui se fait après, et là, ici, c'est de la part de paroles et musique, parce que la personne est un peu laï-laï et qui a fait des textes qui ne plaisent pas bien, quoi. Le dernier point, c'est que quand on regarde au niveau de l'atelier qui se passe au niveau de la cour de promenade, au niveau de la promenade, pardon, on voit bien que derrière ce grand discours de la paix, de faire de la réinsertion, on voit qu'en fait, ils font pas d'efforts, quoi, et que c'est un truc parmi d'autres, comme peut l'être la télé, ou aller au travail, ou choses comme ça, pour avoir, on se posait la question, peut-être une paix sociale, et finalement, on voit on va dire, ils ne mettent pas du baume au cœur pour faire que la réinsertion soit efficace, quoi.
On l'avait vu quand on avait interviewé des anciens du Génépi qui disaient que l'administration, l'organisation faisait que plein de détenus n'arrivaient même pas jusqu'à l'atelier d'aide à l'enseignement du Génépi, quoi.
Ouais. Et là, justement, là, on vient de voir un peu sur le cas précis de ce type d'atelier. Et là, Sophie, toi, tu vas enchaîner avec plus en quoi la réinsertion, c'est un leurre au niveau du travail,
ouais, du travail,
la culture et l'apprentissage, quoi.
Alors, en fait, au niveau du travail, nous, on dirait que c'est un leurre même, dans la nature même du dispositif. Parce qu'en fait, on ne peut pas cumuler travail ou formation professionnelle avec une activité éducative ou culturelle. En fait, c'est soit l'un ou soit l'autre. L'emploi du temps, il n'est pas du tout aménagé pour ça, c'est l'un ou l'autre. Donc forcément, ceux qui se galèrent, et vu que c'est assez galère quand même au niveau financier d'être en prison, les gens vont plutôt opter pour une formation, un travail plutôt qu'une activité éducative ou culturelle, quoi. Parce que le coût, il est cher. Une télé, c'est pas gratos. La cantine, ça coûte super cher. Les produits les prix sont faits de manière, sont décidés de manière aléatoire et unilatérale par l'administration pénitentiaire. Il y a aussi le remboursement des parties civiles. Donc en fait, les détenus, il va vite faire son choix, quoi. Donc voilà. Il y a aussi en termes de décalage aussi entre la formation professionnelle en prison. Et la réalité économique à l'extérieur, quoi. Donc le dispositif, là, est complètement faux. Dans le faux, parce que, genre, on va proposer des formations dans le textile dans certaines prisons quand on sait que le textile délocalise à l'étranger. Donc en fait, peut-être on prépare de futurs chômeurs aussi dans cette perspective, quoi. Donc voilà. Que pas tous les établissements aussi sont équipés en termes de matériel ou de dispositif pour ces formations, sont équipés pour aussi un accès en termes de moyens, quoi. Et donc, du coup, ça pose un choix assez lourd pour le détenu. C'est soit je vais faire ma formation qui est dans une autre prison, ou soit je reste là et je reste près de mes proches et je garde mes liens familiaux et amicaux. Et voilà. Et là aussi, non, si je pars, je suis seule, quoi. Donc voilà. Et aussi, en termes... c'est un leurre au niveau de la réinsertion, aussi en termes pécuniers, parce qu'en fait, les conditions, par le travail, donc, je parlais, les conditions de travail en ce qui concerne les droits syndicaux et surtout les politiques salariales dans la prison, c'est le tiers-monde, quoi. Franchement, limite, t'es mieux payé en Inde. Hein, ça te donne pas forcément envie, ça te donne pas envie de bosser.
Une bonne image du travail.
Ouais, ça te donne pas une bonne image du travail. Bon, après, je pense qu'on n'a pas tous une très bonne image du travail. Et en tout cas, tu te dis, c'est genre pour me sortir un peu de ma cellule et me ramener un peu d'argent. C'est surtout pas pour avoir un avenir professionnel, quoi. Et qu'aussi, il y a quand même pas mal de misère à l'extérieur, quoi. De chômage, etc. Et comment est-ce que c'est possible de trouver des formations pour des détenus, c'est même pire, quoi. La précarité, elle est encore plus grande, donc ça, c'est encore un leurre, quoi, à ce niveau-là. Et du coup, qu'on se disait aussi, donc en plus du travail, que c'est aussi un leurre en ce qui concerne la réinsertion par la culture et l'apprentissage, parce que du coup, ça touche à... Dans l'interview, on voit que l'atelier... C'est 4 personnes pour 445 détenus, quand même, qui se fait sur le temps de promenade. Que c'est qu'en plus, faire des études, c'est quand même, surtout les études supérieures, par exemple, c'est après donc le bac. Le financement, c'est l'administration pénitentiaire et son pouvoir discrétionnaire qui le décide. Les formations scolaires aussi, on a remarqué qu'elles étaient quand même assez socialement ciblées. C'est un peu tu viens d'une famille d'ouvriers, etc. Tu te galères un petit peu à l'école ou tu es un élève moyen, on va vite t'orienter dans le professionnel, genre plasturgie, des métiers qui te font pas du tout envie. Et tu vois, les formations qui sont proposées en tôle, c'est quand même aussi un peu dans ce registre-là, quoi, que du manuel, bien qu'il y ait rien contre le travail manuel, mais c'est toujours des formations qui sont socialement ciblées, quoi. Et qu'il y a aussi le fonds bibliothèque, c'est pauvre, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et que tout ça, en plus, ça se passe mal à partir du moment où il y a des risques de transfert, où les gens ils doivent sortir dans le cadre des enquêtes judiciaires, etc. Donc ils ne peuvent pas forcément être là en formation, enfin bref, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui font que ça devienne un leurre, en fait.
Ouais, et en fait, où on voulait surtout appuyer, c'est que la question de la réinsertion, elle dépasse largement le cadre de la prison, en fait. C'est aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est là que commencent véritablement les problèmes. Donc déjà, faire ce constat que le système pénal, il n'a jamais sorti quelqu'un de la pauvreté. Et il faut remarquer que la plupart des détenus, justement, sont issus de milieux défavorisés ou pauvres. Énormément de détenus. Qu'on peut se poser la question de comment faire quand on n'a pas ou plus de proches pour être soutenu matériellement, psychologiquement et financièrement à la sortie. Il faut quand même, les chiffres parlent de 1/3 des prisonniers, selon les études, c'est quand même important. Toujours sur l'aspect pécunier, il y a 1/5 des détenus sortants qui ont moins de 8 euros en poche. Donc voilà la perspective d'avenir, ça donne envie, quoi. Et on peut aussi se poser des questions au niveau de comment on peut faire pour se réinsérer et trouver du travail quand on a la marque sur soi du passage en détention qui fait que ça va fermer plein de portes sur la personne, quoi. Il y a plein de boulots qui sont interdits, par exemple. Il y a la liste assez longue, quoi. Il y a aussi toute la question, toutes ces espèces de principes de base où ça se mord la queue. Comment trouver du travail si on n'a pas de logement, et comment trouver un logement si on n'a pas de travail, par exemple. Et les chiffres parlent de 30% de personnes sortant de prison qui sont sans argent, sans emploi et sans abri. Et enfin, le constat où là les chiffres sont les plus accablants au niveau de ce qu'on parle de réinsertion, c'est selon un rapport 2006, c'est au niveau de la récidive. Donc s'il y a soi-disant tant d'insertion et que ça marchait si bien, il n'y aurait peut-être pas autant de récidive. C'est que 60% des sortants de prison, ils seront reconfrontés de nouveau à la justice, et il y en a 40% parmi eux qui retourneront en détention dans les 5 ans après leur libération. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent, en fait, les récidivistes, ils commettent des fautes qui sont plus graves que lors de leur précédente incarcération, quoi. Donc après, voilà, c'est un discours qui est beaucoup partagé par l'AP, par les intervenants au niveau réinsertion, etc. Mais nous, on trouvait ça bien dans l'interview, que comme le dit 12 mai, c'est que les détenus ne sont pas dupes là-dessus, quoi. Et que pour eux, c'est avant tout l'occupationnel, et ça leur fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui vient de l'extérieur et de parler aussi un peu d'autre chose que la prison, quoi.
Ouais, et au-delà de ça, pour finir sur ce sujet de la réinsertion, il y a un truc, c'est que c'est... La réinsertion, ça ne veut pas dire pareil pour tout le monde. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis, je fais plein de choses très intéressantes. Et peut-être que les autorités vont considérer que je suis mal insérée dans la société. Et enfin bref, ça, c'est un débat beaucoup plus large. Mais cette question de réinsertion, elle pose encore plus de questions, quoi.
Ouais, parce que ça touche à des normes et de la morale, etc., quoi.
Se mettre dans les rails et tout. Alors bon, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste dire 2 trucs avant de clore. C'est que aussi, quand même, ce genre de dispositifs d'intervention culturelle en prison et tout sont vachement imbriqués dans le réseau associatif local en général. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'État et les collectivités territoriales, elles subventionnent à fond des projets qui sont un peu en vogue, quoi. Alors faire des trucs avec les prisonniers, c'est top. Aller dans les cités, c'est génial. Faire du citoyennisme et du développement durable, c'est super. Et là, on donne des sous aux assos. Ça fait que ça modifie même le réseau associatif qui, pour vivre et survivre, va faire ce genre de choses, et ça biaise complètement l'affaire, quoi, parce que... Enfin, voilà, je voulais juste faire cette remarque, quand même. Et on y réfléchissait, on se disait que même Radio Dio n'était pas en reste. C'est-à-dire, faire un truc sur les prisons, c'est super bien vu. Et donc, tu peux avoir un peu plus de subventions. Mais par contre, ça va dépendre de ce que tu vas dire et comment, etc., quoi.
Mm-hmm. En fait, c'est surtout dans un dispositif humanitaire, quoi. Ouais,
voilà, c'est mieux vu de faire de l'humanitaire que de la critique.
Et justement, ça posait le problème de la participation, en gros, de co-gestionnaire avec l'État, et que finalement, en se focalisant sur certains trucs, on zappait un peu... le problème de fond, quoi.
Et que ça fait quand même passer vite fait les prisonniers pour des gens un peu... Enfin, 12 mai disait ils s'assignent pas l'objectif de sauver la veuve et l'orphelin, mais quand même, ce genre d'atelier fait passer les détenus pour... moi, je dirais, je suis un peu trachée, mais un peu des neuneux, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des ateliers qui étaient mis en place par justement des ateliers de cours et tout auparavant, par des détenus. Et en fait, le ministère de la Justice et la Paix ont vu ça d'un mauvais œil et justement ont mis ces intermédiaires humanitaires associatifs pour cadrer justement cette prise en charge par le détenu lui-même de... voilà.
Ouais, en fait, ce qu'on trouve qui pose problème, c'est qu'on reste dans un rapport d'assistanat et que ce n'est pas les détenus qui le font eux-mêmes, parce que s'ils le feraient eux-mêmes, ça dérangerait, quoi.
Moi, je voudrais conclure en fait avec une petite remarque, c'est que aussi il explique que on lui a montré que des gentils matons et qu'il sait très bien qu'il y en a plein qui le sont beaucoup moins. Et ça fait, je pense, ça participe à un truc de donner une bonne image de la prison à l'extérieur. Cette anecdote-là, et qu'en fait, ces ateliers, souvent, dans le monde extérieur à la prison, eh ben, donnent une bonne image de la prison. En gros, moi, c'est comme ça que j'aurais envie de conclure, et nous empêchent un peu de remettre en cause la prison en général, et c'est ce que nous, on aimerait pouvoir faire, quoi. C'est dire la prison, c'est pas. Peut-être on peut la remettre en cause, quoi.
Et sachant que même sur un maton sympa dans son contrat de travail, c'est écrit en cas d'évasion, enfin voilà, enfin il doit tirer sur le prisonnier.
Bon, maintenant il faut cesser un petit peu. Hein. Ça a été conclu. Je crois qu'on a déjà fait une conclusion, donc on va passer un petit peu de musique et puis à plus.
Avant de courir et vomir à mort, je ne fais que tout dire et courir dehors. Avoir le fou rire devant la bannière tricolore et puis me nourrir de bière. Dormir et sortir le soir, partir en guerre au moindre regard. Souiller les concerts et comptoirs de bar, sans obéir aux billets et rêves de gloire. Haïr les bouffons de la cour, les murs, les plafonds de ma tour. Écrire mon malheur, en faire des coulures, tout en voulant avoir de l'allure. Et puis même en galère, claquer les sous de mon salaire et maquer de nouvelles injures pour les ordures à mon vocabulaire.
Insupportable,
inventable,
insolent,
insortable,
immontrable,
impossible,
ingérable,
infâme,
affreux,
infréquentable.
Insupportable,
inventable,
insolent,
insortable,
immontrable,
impossible,
ingérable,
infâme,
affreux,
infréquentable.
Non, je n'ai pas renoncé à devenir un jour un saint qu'on priera, qu'on suppliera, qu'on implorera de multiplier les pains et de guérir les clampins. Le compte est loin d'ici à ce qu'on me fasse des ponts vers les honneurs rendus aux bienfaiteurs. Du genre humain, du genre canin, j'aime trop me vautrer dans le sacrilège. L'atteinte aux bonnes mœurs, la bonne chair, la bonne résine, les bonnes bovines du tout dernier type. Et oui, j'ai des principes, et puis j'aime trop la vision du feu lorsqu'il s'invite sur des... Y'a rien à faire, mes bien chers frères, j'ai cramé seul l'auréole que j'aurais pu exhiber au col.
Insupportable,
inventable,
insolent,
insortable,
immontrable,
impossible,
ingérable,
infâme,
affreux,
infréquentable.
Insupportable,
inventable,
insolent,
insortable,
immontrable,
impossible,
ingérable,
infâme,
affreux,
infréquentable.
Infâme,
affreux,
affreux,
insolent,
insortable,
insortable,
immontrable,
impossible,
invendable,
invendable,
anitrable,
infâme, affreux, insolent, insortable, immontrable, impossible, invendable, anitrable,
infâme, affreux, insolent, insortable, immontrable, impossible, invendable, anitrable. Insuffisant,
1 sur 20.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Dio, la plus sauvage des radios. Là, on vient d'écouter un petit morceau qui s'appelle 1 sur 20 du collectif Zone Libre, avec entre autres au chant Amé, de la rumeur et Cassé. Voilà, je crois que là, on va passer maintenant à l'agenda, mais Olga veut rajouter quelque chose.
Oui, moi, je voulais seulement, pas seulement en fait, c'est vachement important. Là, on vous avait parlé il y a quelques temps des espèces de caillebotis qui mettent aux fenêtres. Et là, avec cette chaleur... Du coup, l'air passe beaucoup moins bien par les fenêtres des cellules. Donc, c'était une petite pensée émue parce que non seulement les yo-yos deviennent impossibles, mais en plus, l'air passe même plus, quoi. Donc, toujours pareil,
et aussi,
vivement
comme,
qu'on abatte ces prisons.
Comme disait Alex, c'est pas pour rien que la mutinerie dans le Val d'Oise s'est faite pour des réfrigérateurs et plus de promenades, quoi.
Et oui.
Le préciser, quoi.
Bon, allez, on passe à l'agenda, aux différentes adresses, aux bloc-notes.
Alors, peut-être rappeler, Elsa, tu veux rappeler notre adresse, tout ça, le collectif sans papier ?
Oui, alors comme on disait, parlez-nous, racontez-nous la prison, ce que vous en pensez, ce que vous vivez. Donc je rappelle notre adresse, c'est Émission Papillon, chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, 42100 Saint-Étienne.
La rediff de l'émission ?
Alors la rediffusion, ce sera le 16 juillet, donc toujours sur Radio Dio, 89.5 FM à Saint-Étienne. Donc jeudi 16 juillet à midi puis à 17h. C'est rediffusé aussi à Lyon sur Radio Canu, 102.2 FM, le troisième mardi du mois à 20h.
Ouais. Je disais aussi pour les proches, tout ça, on a aussi une adresse mail, c'est émissionpapillon tout accroché, @riseup.net, riseup, R-I-S-E-U-P. Voilà.
Alors, pour le collectif, j'ai le temps du coup avec collectif sans papier. Ah non, moi je ne l'ai pas l'adresse, c'est vous qui l'avez.
Alors, collectif sans papier, donc eux ils font des permanences d'information et tout ça pour les personnes qui sont en situation régulière. Donc c'est au local de la dérive, c'est 1 rue Basse Dérive, derrière la fac, arrêt de tram Tréfilerie. Et c'est le lundi à 18h30. Voilà.
Alors lâchez pas votre stylo, parce qu'il y a l'adresse de l'OIP, donc c'est l'Observatoire international des prisons, donc l'antenne à Lyon, c'est 57 rue Sébastien Griff. 69007 Lyon. Il y a aussi le journal L'Envolé, hein, dont on parle régulièrement. Voilà. Donc c'est 43 rue de Stalingrad. Vous pouvez leur envoyer vos témoignages. 43 rue de Stalingrad, 93100 Montreuil. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez écouter l'émission en streaming. Donc c'est sur Paris, hein, je précise bien. Donc sur Fréquence Paris Pluriel, donc vous tapez sur le net Fréquence Paris Pluriel, émission L'Envolée, c'est les vendredis soirs à 19h.
Ouais. Et ce qui est important avec aussi L'Envolée, c'est qu'ils donnent le journal gratuitement,
oui.
Ils abonnent gratuitement les détenus, donc il faut faire la demande, vous pouvez passer par nous et on le fera passer.
Et qu'il passe à la Talaudière, ce journal. Et enfin, tout à l'heure, on a parlé de l'évasion de Christophe Kider et Vitfec, et donc là, on vous redonne l'adresse de l'ARPI, dont s'occupe sa maman, Catherine Charles. Donc c'est une allée des érables, ARPI, A-R-2-P-I, une allée des érables, 94 410, Saint-Maurice. Et il y a un téléphone, c'est 06 68 84 47 31. Et Catherine Charles fait aussi une émission, toujours pour ceux qui sont à l'extérieur, que vous pouvez écouter en streaming, c'est un vendredi sur deux, sur Radio Libertaire à Paris. Voilà. Et donc là, c'est sur la problématique des proches de détenus et puis lutter aussi pour ceux qui sont incarcérés.
Et moi, je voulais rajouter quand même qu'on peut appeler la radio pour la clé des ondes. C'est le mercredi, chaque mercredi à 17h30 jusqu'à 19h. Le numéro de téléphone, c'est le 04 77 43 88 95. Donc n'hésitez pas à laisser des messages, ils passent en direct, ils sont entendus à la maison d'arrêt de la Talaudière. Bon, on va se quitter, oui, il est grand temps.
On se retrouve le 2 août à 17h30, dimanche 2 août.
Et on passe le bonjour à 12 mai, hein, si tu nous écoutes.
Merci pour l'interview.
Oui, merci, salut à Nabil et puis bon courage à tout le monde.
Salut, salut.
Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bientôt on se réveille.
messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé.